VOA Afrique, le monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 19 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sédounia. Pour commencer, les titres. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, Elgassim Ouane, réclame les moyens nécessaires pour assurer son mandat. Toujours au Mali, 3 enfants tués par un engin explosif, près de 20 morts en une semaine. En Guinée, l'opposant Selou Baldé, relâché mardi, est placé sous contrôle judiciaire. En Tunisie, une nouvelle protestation pour réclamer l'intensification des recherches des corps de migrants tunisiens disparus en mer il y a un mois. Ukraine, situation tendue au front. Moscou s'apprête à évacuer les civils de Kherson. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef de la mission de l'ONU au Mali réclame davantage de moyens pour assurer son mandat, décrivant une situation sécuritaire qui reste volatile dans plusieurs régions et où ses actions subissent des restrictions selon lui. Le point avec Abdourahmane Dia.
Devant le Conseil de sécurité mardi, Elgassim Ouane a fait état d'une situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme très difficile. Ceci alors que 4 nouveaux casques bleus ont été tués lundi par un engin explosif improvisé. Nous utilisons nos ressources de la manière la plus créative et flexible possible, mais la détermination des casques bleus sur le terrain ne peut pas remplacer les moyens dont nous avons désespérément besoin, a-t-il encore insisté, parlant d'un environnement opérationnel difficile. Le rapport du secrétaire général Antonio Guterres, examiné lors de cette réunion du Conseil de sécurité, souligne notamment les restrictions de mouvement et d'accès rencontrées par la MINUSMA, la plupart imposées selon lui par les autorités maliennes, ainsi que des campagnes de désinformation contre la mission. La MINUSMA est en danger, a commenté l'ambassadeur français Nicolas de Rivière, évoquant les actions des groupes terroristes et les entraves aux activités de la mission. Contrairement à ce qui est véhiculé, il n'existe aucune volonté de restreindre les mouvements de la mission, a répondu le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, mettant en avant la volonté d'affirmer la souveraineté du Mali sur son territoire.
Au Mali même, 3 enfants ont été tués par un engin explosif mardi dans le centre du pays. Ces armes ont fait près de 20 morts en une semaine et des dizaines depuis le début de l'année. Nathalie Barge.
Les médias locaux ont rapporté le décès de 3 enfants dont la charrette a sauté sur un engin explosif. La mort des enfants a été confirmée par le centre de santé de Bandiagara dans la région de Mopti. C'est le 3e incident meurtrier mettant en cause ce type d'arme en moins d'une semaine. 11 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés jeudi dernier dans la même région quand leur car a heurté un engin explosif improvisé. Lundi, c'est un véhicule de la MINUSMA qui a sauté lors d'une patrouille de déminage dans le nord du pays, tuant 4 casques bleus tchadiens et en blessant 2 autres. Les mines et engins explosifs sont utilisés par les djihadistes. D'autre part, au moins 7 combattants pro-gouvernementaux ont été tués hier près de Gao quand des hommes armés ont attaqué leur position au sud de la ville, selon Oumar Maïga, un responsable du groupe Ganda Izo. La police a confirmé l'attaque meurtrière, disant que l'armée a dépêché des renforts.
Selou Baldé, opposant à la junte au pouvoir en Guinée, a été relâché mardi et placé sous contrôle judiciaire. Il doit se présenter tous les lundis et jeudis au tribunal où il devra aussi déposer son passeport, selon son avocat, Maître Alcéni Aissata Diallo. Le point avec Nani Talani.
Selou Baldé est le représentant de l'UFDG, le parti de l'ex-premier ministre Selou Dalein Diallo, dans la région de l'Abé. Il avait été interpellé lundi et a été entendu mardi par les gendarmes avant d'être déféré devant la justice. Les gendarmes l'ont interrogé sur sa participation à des manifestations interdites en juillet, a dit son avocat. Plusieurs forces politiques avaient réclamé lundi soir dans un communiqué la libération immédiate et sans condition de ce responsable d'opposition, accusant la junte de museler par tous les moyens toutes les voix discordantes à sa gestion unilatérale de la transition. Elles ont également appelé à la mobilisation générale les jours à venir pour exiger la libération de tous les détenus politiques et sociaux injustement arrêtés et kidnappés selon elles. De nouvelles manifestations sont prévues le 20 octobre à Conakry, puis le 26 octobre dans tout le pays.
Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où prévaut une insécurité généralisée, des bandits armés ont attaqué mardi l'hôpital général Abdul Salam Abubakar de Goulou dans l'état du Niger, dans le nord-ouest. Cette attaque a eu lieu au lendemain de celle perpétrée contre un centre de santé dans l'état de Zamfara, dans la même région, et qui a été dénoncée par Médecins sans frontières. Selon un habitant de la ville, joint par l'AFP, les assaillants ont pris d'assaut l'hôpital vers 1h30 du matin et ouvert le feu à l'aveuglette, tuant 2 personnes. Ils ont aussi pris en otage environ 20 personnes, dont plusieurs membres du corps médical, sans doute pour qu'ils soignent leurs camarades blessés dans leur camp, a ajouté la même source. En Tunisie, des milliers de personnes ont manifesté mardi à Zarzis, une ville du sud-est, paralysée par une grève générale. Elles réclamaient l'intensification des recherches des corps de migrants tunisiens disparus en mer il y a 1 mois. Davantage de précisions avec Mohamed Houmfa.
De 4 000 à 5 000 manifestants, parmi lesquels les familles de 12 migrants portés disparus, se sont rassemblés sur l'avenue principale de Zarzis, selon des médias locaux et un militant associatif ayant participé à la manifestation. Certains brandissaient des photos des disparus et des banderoles dénonçant un crime d'État, appelant à dévoiler la vérité. Aujourd'hui, nous voulons connaître la vérité. C'est un crime d'État perpétré contre les habitants de Zarzis, a déclaré Ezzedine Mzalem, un militant associatif. Une embarcation de fortune partie de Zarzis avec à son bord 18 migrants tunisiens cherchant à rejoindre les côtes européennes a disparu dans la nuit du 20 au 21 septembre. Par la suite, 8 corps, dont plusieurs de Tunisiens, ont été retrouvés le 10 octobre par des pêcheurs. Les autorités locales ont inhumé par erreur 4 migrants tunisiens dans un cimetière privé réservé habituellement aux corps des migrants subsahariens repêchés dans la région, ce qui a provoqué la colère des familles. Après leur protestation, le président Kais Saied a ordonné lundi au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie s'apprête à évacuer la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine, où ses troupes sont confrontées à une situation particulièrement tendue face à la contre-offensive de Kiev, qui a dénoncé les nombreuses frappes ayant de nouveau visé mardi ses infrastructures énergétiques. Les États-Unis vont puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques pour tenter de soulager les cours de l'or noir, et le président Biden n'exclut pas d'en utiliser davantage, a indiqué mardi un responsable gouvernemental. Cette nouvelle ponction, qui sera réalisée en décembre, constitue la dernière tranche du programme annoncé au printemps par M. Biden et qui prévoyait de libérer 180 millions de barils au total pour faire face à la flambée des prix liée à l'invasion de l'Ukraine. À l'approche du scrutin législatif du 8 novembre, M. Biden veut éviter une remontée du prix de l'essence. Le ministère américain de la Justice a accusé mardi le cimentier français Lafarge, appartenant au Suisse Holcim, d'avoir fait le choix impensable de collaborer avec le groupe État islamique durant la guerre en Syrie. Au milieu d'une guerre civile, Lafarge a fait le choix impensable de mettre de l'argent entre les mains de ce groupe, l'une des organisations terroristes les plus barbares du monde, afin de continuer à vendre du ciment, a déclaré le procureur fédéral de Brooklyn, Brian Peace, en confirmant une sanction financière de 778 millions de dollars infligée à Lafarge pour avoir aidé des organisations terroristes en Syrie. La Corée du Sud a critiqué ce mercredi la Corée du Nord pour avoir procédé à de nouveaux tirs d'artillerie dans les eaux de ses côtes est et ouest, ciblant une zone tampon maritime établie lors d'un accord de 2018 destiné à prévenir les tensions, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Pyongyang a considérablement intensifié ses lancements de missiles et exercices militaires ces dernières semaines, alors que Séoul et Washington affirment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est sur le point de mener ce qui serait le 7e essai nucléaire de son pays. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La compagnie publique de transport sud-africaine Transnet a annoncé lundi la conclusion d'un accord avec les syndicats permettant de mettre fin à la grève qui entravait les exportations de l'Afrique du Sud. Le syndicat uni des transports nationaux UNTU, majoritaire, a renoncé à sa demande d'une hausse des salaires de près de 8% et accepté l'offre faite par la direction d'une augmentation de 6%. La société Transnet assure l'exploitation du réseau de fret ferroviaire et de tous les ports de l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Le Lesotho est devenu en moins de 20 ans l'un des premiers producteurs de la région du poisson d'eau douce à la chair délicate et recherchée en amont du barrage d'Okatse sur la mini-chaîne de production flottante. Des truites arc-en-ciel sont tirées des bassins par énormes paquets grouillants et visqueux. Le secteur a rapporté près de 680 000 euros en 2020 selon l'organisme national de développement qui mise sur un sérieux potentiel de croissance avec la construction d'un nouveau barrage. Les salariés d'un entrepôt d'Amazon aux États-Unis ont voté mardi contre Amazon Labor Union, ALU. Il s'agit d'une nouvelle défaite pour ce syndicat qui tente de s'imposer au sein d'Amazon. Cette organisation avait créé la surprise en début d'année en devenant le premier syndicat à s'imposer au sein du géant du commerce en ligne. Amazon avait jusqu'alors réussi à repousser les velléités des salariés souhaitant se syndiquer.
Merci Eric. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF a procédé hier au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe CAF.
Oui, ce tour mettra aux prises les 16 équipes qualifiées à l'issue du deuxième tour préliminaire aux 16 équipes reversées de la Ligue des Champions. Choc fratricide en vue entre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et ceux du SC Gagnoua. Possible duel congolais aussi entre Vita Club s'il est éliminé en Ligue des Champions contre le Rai Club du Kadiogo demain jeudi en match retour. V Club ferait alors face à Saint-Éloi Lupopo. Le destin a encore mis un club sud-africain sur la route du tout-puissant Mazembe, Royal AM FC. L'USM Alger fera face à Cape Town CFC. À suivre également Djoliba de Bamako face à Far de Rabat ou encore Young Africans contre le club africain. La Renaissance sportive de Berkane, tenante du titre, joue les Tunisiens de l'US Monastir. Les matchs allés se disputeront le 2 novembre et les rencontres retour une semaine plus tard.
Les matchs qualificatifs de la CAN des moins de 20 ans se poursuivent.
Les deux matchs de mardi se sont terminés par des résultats nuls. 1-1 entre la Libye et l'Algérie. Le Maroc et la Tunisie ne sont pas parvenus à se départager non plus. 0-0. Les matchs de la deuxième journée sont prévus vendredi. Duel entre l'Algérie et le Maroc et la Tunisie fait face à la Libye. Pour rappel, le pays qui finira premier va se qualifier pour la phase finale en Égypte.
Pas de mondial pour N'Golo Kanté.
Le milieu de terrain français de Chelsea a été opéré des ischio-jambiers et sera indisponible pour 4 mois, ce qui le privera du mondial au Qatar. L'annonce a été faite par son club de Chelsea. La décision d'opérer a été prise d'un commun accord après consultation d'un spécialiste, explique le club londonien dans un communiqué. N'Golo Kanté n'a joué que les deux premières journées de la Première Ligue avec son club avant de rejoindre l'infirmerie. Depuis la saison 2019-2020, le milieu relayeur a raté plus de 60 matchs pour des blessures musculaires ou articulaires, ainsi que pour 2 infections au Covid-19. À 31 ans et alors que son contrat expire à la fin de la saison avec Chelsea, Kanté risque de ne revenir qu'à la toute fin de l'hiver.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso tire 80% de ses ressources de l'agriculture, mais depuis 2015, le pays est pris dans une spirale de violence attribuée aux groupes armés djihadistes. Entre afflux de déplacés et mauvaises récoltes, la faim menace le nord du Burkina. De plus, l'instabilité politique et l'inflation ont entraîné un ralentissement de l'économie. Pour en parler, Blanche Sanou a contacté via Skype Dasman Traoré, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso.
Nous subissons de plein fouet cette inflation qui, dans la sous-région, ressort être la plus élevée. Donc, l'inflation étant très élevée, qu'est-ce que le pays doit faire pour nous accompagner à cet effet? Donc, l'ensemble des réunions et les rencontres ont abouti à une prise de décision au niveau gouvernemental qui consistait donc à mettre sur la table 14 milliards de francs CFA pour soulager les consommateurs. Nous avons également obtenu auprès de l'État des subventions pour les boulangers de façon à ce qu'ils n'augmentent pas drastiquement le prix du pain. Depuis juillet à nos jours, les prix n'ont pas diminué si ce n'est qu'une augmentation. Nous sommes, par exemple, pour vous montrer qu'il y a toujours l'inflation, nous sommes en pleine rentrée scolaire et en pleine rentrée scolaire, tous les prix des produits, en tout cas, ont augmenté. Et l'autre phénomène qui est en train de rendre encore la vie très difficile en ce moment, c'est le problème justement de la distribution du gaz. On crée la pénurie artificielle et puis on augmente aux consommateurs de prendre ou ne pas prendre. Et c'est ce que la Ligue a dénoncé lorsqu'elle a approché les premiers responsables et qu'elle a demandé une réunion. Et cette réunion a rencontré à la fois les agents de la SONADI, la nationale donc des hydrocarbures, les distributeurs, le ministère en charge du commerce, la douane et la Ligue des consommateurs. Et aujourd'hui, nous avons, nous consommateurs, l'impression d'avoir été laissés. Au niveau des zones rurales, c'est vraiment pire parce que vous avez l'insécurité qui s'est invitée et cette insécurité a entraîné des personnes hors de leur concession, qu'on appelle donc des personnes déplacées internes. Et ces personnes se retrouvent dans des milieux où malheureusement elles sont dépourvues de tout parce qu'en se déplaçant malheureusement, elles se sont déplacées en laissant tous leurs biens derrière. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits aussi bien par les ONG, par l'État, mais pas aussi par des citoyens, eux. Mais ça ne peut pas leur permettre de vivre comme ils le faisaient là où ils étaient, donc dans leur milieu d'origine. Nous attendons fermement les nouvelles autorités pour qu'ensemble, on voit sous quel angle ils peuvent effectivement jouer ce rôle régalien de l'État allant dans le sens de la protection des consommateurs.
C'était Dasman Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La présidente tanzanienne Samia Suluhu exhorte les femmes de son pays à avoir moins d'enfants et à envisager le recours à la contraception pour atténuer la pression démographique sur les ressources nationales. Selon la Banque mondiale, la Tanzanie a l'un des plus forts taux de natalité d'Afrique de l'Est, derrière la Somalie, la RDC et le Burundi. Reportage de Charles Kombea Dar es Salaam, récit de Michel Joseph.
La présidente tanzanienne s'exprimait dimanche durant une visite dans la région occidentale de Geita. Ses propos contrastaient nettement avec ceux de son défunt prédécesseur John Magufuli, qui décourageait les femmes d'utiliser les méthodes contraceptives. Madame Hassan réagissait aux propos du responsable du secrétaire à l'idéologie de son parti qui avait appelé les femmes de la région à avoir plus d'enfants du fait de la disponibilité des services sociaux.
Hier, j'ai appris qu'un centre de santé de Bousselé-Sélé dans la région de Guéïta enregistrait 1 000 000 de bébés par mois. Alors, combien de salles de classe seront nécessaires après 3 ans? Que dire des centres de santé? Combien seront nécessaires pour prendre soin de tous ces enfants? Combien de tonnes de nourriture seront nécessaires? Réduisons cette allure et prenons contrôle de la situation.
Selon les données du Fonds de l'ONU pour la population, la Tanzanie connaît un taux annuel de croissance démographique de 2,7%, avec des écoles et des hôpitaux surpeuplés et de nombreux jeunes au chômage. Un rapport de la Banque mondiale de 2020 relève un taux de fertilité de 4,8 naissances par femme, dû essentiellement au mariage précoce et au faible recours à la contraception. Bien qu'en déclin, ce taux est loin d'atteindre ceux de pays comme le Kenya ou l'Éthiopie. Ado Shaibu est le secrétaire général de l'Alliance pour le changement et la transparence, un parti d'opposition.
Les plans de développement doivent correspondre à la démographie. Des forts taux de naissance vont compromettre la capacité du gouvernement à bien servir les citoyens. La position de la présidente contraste avec celle très dangereuse de son prédécesseur qui encourageait les gens à avoir beaucoup de bébés, car nous savons que le gouvernement ne peut pas fournir des services sociaux adéquats.
Certains citoyens, comme Madame Mercy Sekwao, approuvent les propos de la présidente Hassan, estimant qu'un bas taux de natalité mènera à une nation plus saine et plus prospère.
C'est un bon conseil et cela doit valoir pour l'ensemble du pays, car vous pouvez voir que notre économie est en croissance lorsque vous avez beaucoup d'enfants. Le coût de la vie augmente également. C'est mieux de recourir au contrôle des naissances.
Madame Eva Kapoma est d'avis contraire. Pour elle, les enfants constituent une richesse.
Je pense que nous devons continuer à avoir des enfants, car avoir des enfants a beaucoup de bénéfices. Nous donnons naissance pour que nos enfants puissent nous aider dans l'avenir.
La Tanzanie a une population estimée à 60 millions d'âmes, avec l'un des plus forts taux de natalité au monde, près de 5 enfants par femme.
Le cancer du sein est l'une des maladies chroniques non transmissibles dont le taux de mortalité est très élevé dans le monde. Pendant tout le mois d'octobre, la communauté scientifique dans le monde entier et les ONG de santé sont en première ligne pour mener des actions de sensibilisation contre le cancer du sein, avec l'espoir de voir de plus en plus de patientes en guérir. Mise en perspective, Eric Manirakidza.
Le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes dans le monde. Les données du Fonds mondial de recherche sur le cancer montrent qu'il y a eu plus de 2,26 millions de nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes en 2020. Selon les experts, au moins 80% des personnes survivent au cancer du sein en Amérique du Nord. Dans les pays à faible revenu, ce taux est inférieur à 50%. Et les femmes noires sont plus à risque. Le docteur Béatrice Souyafé Adai est la présidente de Breast Care International, une organisation à but non lucratif de défense du cancer du sein basée au Ghana.
Nous avons beaucoup de cas de cancer triple négatif. Les Noirs américains en ont aussi, mais c'est parce que nous avons les mêmes racines.
Les chercheurs ont identifié des liens biologiques entre l'ascendance africaine et le cancer du sein triple négatif. Des scientifiques affirment que ce cancer est plus agressif et plus susceptible de se propager au-delà du sein et de réapparaître après un traitement. Ils affirment qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le cancer du sein chez les femmes d'ascendance africaine afin qu'elles puissent bénéficier de meilleures options de prévention et de traitements spécifiques à leurs besoins. Le docteur Kafui Akakpo, pathologiste, travaille avec Yemachi Biotech, une entreprise locale de recherche et de diagnostic.
Si vous regardez toutes les études à travers le monde, très peu d'entre elles concernent les Africains. Et ce que cela permet de faire, c'est d'étudier la population africaine, ce qui a des effets sur les Africains et les Afro-Américains, ainsi que sur tout autre groupe ayant une base en Afrique. C'est pourquoi c'est si important. Sans cela, vous n'avez pas assez d'éléments pour établir un lien avec le cancer du sein africain. La plupart de ces cancers se trouvent en fait dans la population blanche et non dans la population africaine.
Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein dans le monde entier. Un moment pour informer et soutenir la population à ce sujet. À cet égard, le Ghana a accueilli la 10e marche nationale annuelle contre le cancer du sein, un événement organisé par Breast Care International qui rassemble des milliers de personnes dans différentes régions du pays. Cette année, l'événement a eu lieu à Tepa, dans le district d'Ahafo à Nonof, sous le thème « Le cancer du sein ne se repose pas, alors pourquoi devrions-nous le faire ?»
Nos proches, nos mères, nos sœurs, nos grands-mères, nos filles, nos amis meurent inutilement de cette maladie. Nous, à Breast Care International et à l'hôpital Peace and Love, avons décidé de mener une guerre contre le cancer du sein dans notre pays et en Afrique. Et je suis sûre qu'avec l'aide de vous tous ici et de ceux qui nous regardent et nous écoutent, nous vaincrons le cancer du sein.
Les experts médicaux affirment que l'âge, l'obésité, l'inactivité et la consommation d'alcool peuvent augmenter les risques de développer un cancer du sein et qu'une détection précoce et une action rapide peuvent augmenter les chances de survie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken visite la Silicon Valley pour promouvoir la politique de l'administration Biden qui encourage plus d'investissements dans les technologies. Une occasion aussi pour lui de décourager la vente des produits technologiques américains aux entreprises basées en Chine. Reportage de Michel Quinn, relaté par Mohamed Humfa.
S'exprimant à l'université de Stanford, aux côtés de l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice, le secrétaire d'État Anthony Blinken a adressé un message aux étudiants et professeurs. La technologie joue un rôle essentiel dans les défis géopolitiques du monde.
Nous sommes dans un moment de compétition intense pour façonner l'avenir. La technologie, l'innovation, l'entrepreneuriat sont au cœur de tout cela. C'est ainsi que nous allons réoutiller les économies pour l'avenir. C'est ainsi que nous allons moderniser les armées si nécessaire.
Le voyage de Blinken intervient alors que l'administration Biden commence à mettre en œuvre le programme Chips and Science Act, un programme pour stimuler la recherche et la production nationale de semi-conducteurs. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a mis en place des contrôles à l'exportation, empêchant certains fournisseurs de semi-conducteurs de vendre à la Chine afin d'entraver la capacité de ce pays à développer des puces à finalité militaire.
Il n'y a qu'un petit nombre de pays qui fabriquent les semi-conducteurs haut de gamme ou les outils pour concevoir les semi-conducteurs haut de gamme.
Des experts du secteur affirment que les nouvelles restrictions nuiront aux activités de certaines entreprises technologiques américaines. Le professeur de droit de l'université de Stanford, Nate Persily, pense que le voyage de Blinken dans la Silicon Valley démontre l'importance de l'industrie technologique en ce qui concerne les défis géopolitiques.
Alors que nous avons tendance à penser que les entreprises ici ne font que fabriquer des produits, en fait, ces produits, qu'il s'agisse de semi-conducteurs ou d'autres, ont des implications mondiales pour les questions de paix et de guerre et les questions de relations internationales. Et donc, le secrétaire d'État et d'autres membres du gouvernement reconnaissent qu'ils doivent, en quelque sorte, avoir des politiques spéciales pour ce genre d'industrie.
Dans son discours à Stanford, M. Blinken a annoncé le renforcement des liens entre Washington et la Silicon Valley. Il a promis que le bureau du cyberespace et de la politique numérique du département d'État assurera désormais une connectivité quotidienne avec le monde de la Silicon Valley.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Segulia, à la mise en onde de Lionel Gahima. À la console Kelvin Fowler, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour suivi de l'actualité 24.